Lizzie présente On ne meurt pas d'amour de Géraldine d'Alban Morenas. Lue par Camille Lamache. À Milo, parce que si je ne devais t'apprendre qu'une seule chose, ce serait que rien n'est plus beau que d'aimer. Chapitre 1. Il est 18h. Elle n'a rien. Elle se demande si c'est tout à fait normal de passer autant de temps à chercher un cadeau pour la crémaillère de gens que l'on connaît à peine. Ils sont allés au Conran Shop, au Bon Marché. Ils ont arpenté tous les magasins de Saint-Germain-des-Prés. On est à quelques semaines de Noël, il y a un monde fou partout. La France a déjà l'esprit envahi par les paquets qu'elle déposera un prochain matin au pied du sapin. Des amis de province sont montés passer le week-end à Paris. Tout va bien. Il y a quelques semaines à peine, son homme l'a demandée en mariage à New York, au cœur de cette ville pour laquelle elle a toujours eu une tendresse particulière. Il a fait les choses bien. Réveil à 6h du matin, taxi pour Roissy, suite dans un hôtel de Manhattan. En haut de l'Empire State Building, il a sorti un diamant de sa poche. Tout était parfait, comme d'habitude. Il n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Elle a dit oui. Depuis, l'histoire faisait son effet dans les dîners. Elle n'a toujours pas trouvé. Elle craque sur un cendrier. Elle se dit que c'est complètement con d'offrir un cendrier à des gens qui ne fument pas. Elle flashe sur une lampe. Elle se dit que c'est totalement absurde d'offrir une lampe aussi chère à des gens que l'on ne connaît pas. Écoute, on apporte un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne et ça ira très bien. Il perd patience. Lui, l'homme parfait, jamais un mot plus haut que l'autre, ne comprend pas. En même temps, comment pourrait-il comprendre? Même elle, ce jour-là, ne comprend pas. Ce n'est jamais que la crémaillère des voisins du deuxième du bâtiment B. Elle retourne au Bon Marché. Le rayon des cadeaux de Noël ressemble au périphérique aux heures de pointe. Elle se décide pour une boîte en métal remplie de petits bouts de papier qu'elle a vaguement repérés. Il faut en lire un chaque jour. Un truc pour bobos branchés des Batignolles qui aiment dépenser leur fric dans des trucs qui ne servent à rien. Un truc qui peut lui faire penser à elle chaque matin. Déjà. Nous sommes courant novembre. Chapitre 2. Ils ont emménagé depuis quelques mois dans un loft tout droit sorti d'un magazine de déco. Le genre d'appart dont on se dit que les gens qui y vivent ont forcément beaucoup d'argent. Ils ne sont pas riches. Ils ont acheté un entrepôt désaffecté à un Syrien un peu voyou qui gérait la réhabilitation de la copropriété. Il fallait une certaine imagination.
Voilà le local dont je vous ai parlé. On est donc sur un rez-de-chaussée sur cour entre deux immeubles. Je vous avais prévenu, tout est à faire. Mais il y a un vrai potentiel. La concierge s'en sert pour le moment comme local à poubelle, mais dans le nouveau règlement de copropriété, il est bien prévu que l'espace passe à usage d'habitation. Il y a deux caves attenantes reliées par cet escalier. Venez, je vous montre. Attention aux toiles d'araignée. Et le trou au milieu de la toiture, c'est normal? Il devait y avoir une verrière dans le temps. Ils avaient juste mis de grandes bâches pour protéger de la pluie. 150 000 €, c'est une affaire pour le quartier. J'ai beaucoup de gens intéressés, ne tardez pas trop à vous décider.
150 000 €, 70 mètres carrés dévastés et deux caves à quelques minutes à pied de la mairie du 17e. Une affaire. Ils ont signé. Quelques jours plus tard, ils s'envolent pour Beyrouth. La guerre du Golfe vient de commencer. Elle commence à traîner chez Point P et à chercher des ouvriers. Elle voit l'espace se transformer. Les caves deviennent des chambres, une grande verrière laisse entrer la lumière. Les murs s'ouvrent, les fenêtres ateliers sont soudées. Deux grandes baies vitrées donnent sur la cour.
d'immenses dalles de verre remplacent le plancher. Elle fait tomber le plafond, récupère les poutres d'acier jusqu'ici cachées. Elle pose un grand pot en terre dehors, y plante un olivier. Lui rentre de temps en temps, pour mieux repartir. Il se passe toujours quelque chose quelque part sur la terre. Elle continue, seule. Elle a quand même le temps de lui demander ce qu'il pense des robinets qu'elle a trouvés pour la salle de bain. S'il est d'accord pour qu'elle fasse la douche en carreau de métro. Il est d'accord. Refait son sac, repart. Un jour, ils emménagent. En quelques mois, elle a fait de cet endroit un lieu où la vie ressemble à un coin d'Italie. Avec cette cour fleurie qui donne envie de s'arrêter boire un café le matin, un verre le soir. Enfin, elle imagine qu'en Italie, c'est comme ça. C'est à cette époque que ceux du deuxième viennent pour la première fois. Elle ne s'en souvient plus très bien. Elle a vu passer sa femme, lui suit derrière avec la poussette. Leur fille ne marche pas encore. Il ne s'arrête pas. Elle n'aime pas les dimanches. Elle traîne toujours une certaine mélancolie. Son homme travaille. Au deuxième, une dizaine d'ouvriers s'activent. Elle entend les coups de marteau, la scie électrique, devine les dernières étagères qui doivent être en train d'être installées. Elle voit les flics arriver. Il y a toujours des gens bien intentionnés. Un voisin excédé les a alertés. Ils viennent pour le bruit. Ils repartent avec 10 travailleurs sans papier. Elle veut le prévenir, demande son numéro à la concierge. Leur ligne téléphonique a déjà été coupée. Ils ne vont plus tarder à s'installer. La porte du porche s'ouvre. Elle voit sa silhouette se dessiner à contre-jour. Il s'avance. Elle le regarde. Il ne la lâche pas des yeux. Elle a l'impression que tout son être à l'intérieur d'elle-même est en train de s'effondrer. Il avance, ne dit toujours rien. Elle se force à parler. Elle lui dit qu'elle cherchait à le joindre. Elle tient le monde dans ses mains. Il ne dit toujours rien. Sort un stylo de sa poche, note son numéro de portable dans un coin du journal. Elle a les mains qui tremblent. Elle n'arrive pas à tenir le journal. Lui non plus. Ils sont là, tous les deux au milieu de cette allée, avec les flics, les ouvriers, les gens. Ils sont là, ils se regardent, ils sont tellement près l'un de l'autre qu'elle pourrait entendre son cœur battre. Ses yeux plongent dans les siens, le temps s'est arrêté. Des voisins arrivent, le temps reprend. Elle ne bouge pas. Ils sont une dizaine maintenant.
C'est sûr qu'il faut aller au commissariat. Non, mais de toute façon, c'est l'entreprise qui est responsable.
Les travaux sont déclarés.
Bon, c'est à l'entrepreneur de se débrouiller, alors. Oui, bien sûr, le dimanche, c'est pas terrible, les travaux.
Il est désolé. Les voisins disent que ce n'est vraiment pas grave.
On ne va pas se fâcher pour si peu.
Et sinon, c'est terminé?
Oui.
Ils doivent emménager le week-end prochain. Tout le monde parle. Elle est là, au milieu. Elle tient toujours le journal dans ses mains. Dans un coin, il y a un numéro de téléphone griffonné au stylo. Elle est brouillée. Embrouillée. Elle devine inconsciemment. Mais elle ne saisit pas vraiment. Pas encore. Il est reparti. Le soir, elle a jeté le monde. Avant, elle a enregistré son numéro dans son téléphone, comme si elle ne pouvait pas faire autrement. Il lui faudra longtemps avant de pouvoir s'expliquer pourquoi. Nous sommes le 11 novembre.